Bonjour, c'est Nathalie David-Veil, vous écoutez 4e de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Paloma de Bois-Morel, qui a écrit La fin du sommeil aux éditions de l'Olivier.
Bonjour Nathalie.
Bonjour. Vous êtes journaliste, vous vivez à Bruxelles. C'est votre premier roman, La fin du sommeil. Je fais le pitch.
Avec plaisir.
Dormir, c'est ce que j'avais fait depuis le début. Pierre-Antoine a acquis une solide réputation d'architecte grâce à ses cubes en verre. Il est le père de 3 enfants et l'époux d'une galeriste surmenée. Au milieu d'une insomnie, ses yeux s'ouvrent sur une étrange révélation. La réalité lui apparaît sous un jour nouveau. Le visage de sa fille, l'éclairage de la cuisine, les mails de ses clients, le sourire de sa femme. Tout a changé, il se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie, qu'il a été un père et un mari indifférents. Il commence alors à regarder le monde différemment, sa femme, ses 3 enfants, sa maison. Et lorsqu'une simple allergie au cyprès lui est diagnostiquée, car il a un mal à la gorge constant, le narrateur annonce à son entourage qu'il a un cancer de la gorge. Voilà qui devrait lui laisser le temps d'écrire un roman, de regagner l'amour de sa femme, la considération de ses enfants. Et bien entendu, ça ne se passe pas comme prévu. Est-ce que vous avez eu du plaisir d'écrire ce premier roman ou, comme votre héros, vous avez cherché à gagner du temps à droite et à gauche pour qu'on vous fiche la paix?
Alors oui, clairement, il y a de ça, puisque l'idée de départ, donc cette histoire du mensonge, ce mensonge terrible que j'ai imaginé pour mon héros, c'est une chose qui m'a traversé l'esprit, qui m'a tentée à une certaine époque de ma vie où j'étais très très occupée. J'avais beaucoup trop de projets et je rêvais d'écrire, je rêvais de disparaître pour écrire. Alors je l'ai fait faire à mon héros. Heureusement, moi-même, je n'ai pas tenté. Voilà. Mais donc il y a à la fois cette frustration et cette envie d'écrire. Et puis après, dans l'écriture elle-même, il y avait beaucoup de jubilation.
Mais votre héros a envie d'écrire, mais très bizarrement, il n'a pas grand-chose à dire. Mon héros n'avait encore ni titre, ni personnage, ni sujet, mais l'obscurité me donnait l'impression d'ouvrir les yeux sur l'empire mystérieux de la création littéraire.
Oui, de mon côté, c'est vrai que c'est un peu mystérieux, cette envie d'écrire. Chez moi, ça a commencé très tôt. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs de, à l'âge de 5 ans, être assise à une petite table et à gribouiller. Je ne savais même pas écrire. Mais ce qui m'embêtait, ce n'est pas le fait de ne pas savoir écrire, c'était le manque de papier. C'est pour vous dire la motivation qu'il y avait. Et en effet, c'était du gribouillage. Donc je pense que c'est une vocation un peu mystérieuse. Et justement, je pense que dans cette vocation, il y a l'idée de percer une forme de sommeil et de se réveiller à soi-même et de regarder le monde avec plus de netteté.
On va y revenir, mais on va d'abord écouter Thibaut de Montalembert qui lit le début de La fin du sommeil de Paloma de Bois-Morel.
La nuque scellée dans l'oreiller, les coudes et les talons vissés dans le matelas, j'attendais que le sommeil vienne me délivrer de toute cette foutue angoisse qu'on appelle par euphémisme la nuit. Comme d'habitude, je gardais les yeux ouverts pour éviter d'être assailli par les visages radieux de mes clients et par les gros sourcils gris de mon associé. Et comme d'habitude, je me préparais psychologiquement à voir apparaître le fauteuil à carreaux, la commode blanche et le petit vase rapporté du Danemark qui émergeait à chaque fois de l'obscurité, avec le même air étonné et stupide. Cette détresse orpheline qui gisait dans un coin et que personne ne songeait à consoler en profita pour me sauter à la gorge. m'inspirant d'une méthode de relaxation évoquée par ma belle-sœur lors d'une discussion devant un bol de guacamole à la couleur suspecte, je tentais de persuader mon corps de sombrer dans ce fameux bien-être dont tout le monde vantait les mérites. J'avais beau enfoncer chacun de mes doigts de pied dans le matelas, respirer dans un esprit d'ouverture et de bienveillance, invoquer le Dieu Tout-Puissant de la résilience, aucune torpeur ne récompensait mes efforts. Comme cela faisait longtemps que je n'avais plus de montre et que la prise électrique de mon côté du lit ne fonctionnait pas, je me contentais de saisir mon smartphone. Il était 5h07, j'avais 58 messages non lus et nous étions le 19 février. Ces chiffres étaient déjà gravés dans mon cerveau comme une devise incompréhensible inscrite sur le fronton d'un temple disparu. Ma couette s'était enfuie quelque part à l'autre bout de la pièce, mais le sommeil me paraissait superflu. Dormir, c'est ce que j'avais fait depuis le début.
Merci Thibaut de Montalembert. La fin du sommeil, Paloma de Bois-Morel, vous en profitez évidemment pour écrire une comédie qui est extraordinairement drôle et c'est difficile de faire rire en littérature. Vous faites une critique de notre société à travers la tyrannie du bien-être, on l'entend dans cet extrait. Sur l'art contemporain, vous ne loupez rien. Sur les adolescents, est-ce que vous avez lister tous les sujets que vous vouliez, dont vous vouliez parler, ou c'est venu avec le métier de vos héros?
Alors, je pense que c'est venu, oui, avec le métier de mes héros, en sachant que donc, mon personnage principal, Pierre-Antoine, est architecte. Alors, je crois que l'architecture, c'est un peu une vengeance personnelle chez moi. Pas contre les architectes, mais plutôt contre les maisons. Je trouve que les maisons ont l'air tellement inoffensives dans les magazines de décoration et sur Pinterest. Mais moi, elles m'ont fait beaucoup souffrir à coups de panne de chaudière, de travaux interminables. Et blague mise à part, je pense que l'architecture, c'est aussi intéressant parce que c'est une équation un peu impossible entre la créativité et le monde matériel. Voilà. Et pour ce qui est de sa femme, Betty, elle est galeriste. Alors galeriste, effectivement, j'ai été galeriste moi-même pendant 2 ans. Et là, je pense que j'ai choisi vraiment, j'ai choisi son métier avec le dessin de parler, de faire une vraie satire de ce monde-là que je trouve passionnant.
Et alors, son mari ne comprend rien. Hein. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il faut admirer, je cite, « l'intention, la réalisation, l'indignation ou peut-être même le conformisme des artistes à nos attentes de subversion ». C'est extraordinairement drôle. Il y a cet artiste serbe dont elle expose les sacs poubelles qui se décollent, qui ne tiennent pas.
Oui, je me suis amusée parce que moi, ce que j'avais remarqué pendant ces 2 ans qui ont été assez intenses, c'est que l'art contemporain, a fortiori, est entouré d'énormément de bavardage. Bavardage qui fait quand même souvent assez obstacle aux œuvres elles-mêmes. Je trouve qu'il suffit de traîner dans une salle d'exposition pour entendre des choses à mourir de rire. Et moi-même, je pense avoir dit des énormités devant des œuvres d'art que je tentais, surtout quand je tentais de les trouver géniales et qu'elles ne m'inspiraient rien du tout. Mais blague mise à part, je pense que l'art est effectivement, pour moi, une forme de transcendance. Et je pense seulement que aujourd'hui, on en a terriblement besoin, mais que on fait beaucoup trop parler les œuvres et qu'on ne les laisse pas et qu'on ne les écoute pas assez personnellement. On n'établit pas assez un dialogue personnel avec les œuvres.
Alors, sur la nourriture aussi, hein, vous êtes extraordinairement drôle. Vous dites que la nourriture ne nous nourrit pas, elle nous identifie. Et,
oui, hein.
Et avec tout ce que mangent les adolescents, leur habitude de photographier les repas, vous avez l'art de regarder tous les travers.
Oui, j'ai été surprise, peut-être comme certains d'entre vous, par cette cette mode qui date déjà de pas mal d'années, qui consiste à photographier son assiette, que ce soit au restaurant ou même chez soi. Et je dois dire que, voilà, moi, je n'ai pas une grande passion pour la nourriture. Pour moi, je trouve que la vie est beaucoup trop courte pour en parler longuement et pour détailler les recettes à table ou pour parler de ses fournisseurs. Mais... C'était une façon de m'amuser de ça. Et je trouve que la nourriture, effectivement, aujourd'hui, est parfois même un marqueur social, ce qui me semble assez ridicule. Et pour ce qui est des photographies de la fille de Pierre-Antoine, c'était aussi montrer un petit peu le fossé des générations qui se creuse avec la technologie, parce que Pierre-Antoine met beaucoup de temps à comprendre qu'il s'agit d'Instagram.
On va écouter Dans le noir de Junior. De Bois Morel, La fin du sommeil aux éditions de l'Olivier. Vous avez choisi un héros masculin, ce que je trouve très intéressant et surtout très décalé. Il reste à la surface, il est plus adolescent que ses enfants qu'il ne comprend pas, mais il ne comprend pas grand-chose à la vie, votre héros.
Oui, bizarrement, en se réveillant de sa vie, finalement, il entre en décalage avec son entourage, avec son époque. Finalement, il se débarrasse déjà de toute la vanité qui peut déjà bien occuper l'esprit. Et c'est quelqu'un qui... Enfin, le titre, La fin du sommeil, parle finalement du sommeil qui obscurcit non pas nos nuits, mais nos journées, ce qui est fait finalement de toutes nos habitudes, de tous nos soucis, de tous les mails que l'on doit envoyer. Et Pierre-Antoine se réveille de ce sommeil-là. Il a, pour moi, il a un regard plutôt acéré, plutôt...
Alors, je cite plusieurs choses. Quand je hochais la tête devant mes clients, je me faisais l'effet d'une petite bouée orange qui flotte en regardant les nageurs se débattre dans les vagues. Elle parlait, mais ses mots avaient l'aspect mou et décoloré des objets restés trop longtemps dans l'eau. Elle parlait comme on pousse les pédales d'un vélo. Elle parlait par réflexe. Elle parlait comme une grenouille croasse au bord d'un étang. Et vous dites, pour décrire, il suffit d'observer. Et c'est précisément ce que fait votre héros. La précision de vos comparaisons, je me suis dit que c'est probablement ça qui faisait l'humour de votre livre.
Tout à fait. Tout à fait. C'est ce décalage. Moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans un roman assez terrible qui s'intitule La cloche de détresse de Sylvia Plath. Et dans ce roman autobiographique, l'héroïne a une dépression, traverse une crise terrifiante. Et au milieu de sa dépression, elle regarde le monde avec un véritable décalage. Elle n'est plus dans le monde. Elle regarde les gens depuis un poste, depuis un territoire qui nous est presque inconnu. Et ce décalage crée un humour terrible, alors même que le roman décrit une réalité très triste.
Oui, et puis il y a le sujet du malade imaginaire quand même, où il s'invente une maladie mortelle, alors qu'il va très bien, il est juste déprimé, très déprimé, mais là l'humour vient de l'incompréhension de ses proches, notamment sa femme, qui est une horreur absolue. Hein. Elle croit que c'est un affront personnel qu'il soit malade, mais s'il l'était vraiment, ça serait quand même horrible. Elle dit « tu vas pas nous faire le coup de mourir », elle dit « je parie que tu as attendu tout ce temps pour consulter ». Tu te payes un cancer juste pour le plaisir de nous faire vivre un enfer. Tu vas nous sucrer le Brésil avec ta maladie. Avoue que tu l'as fait exprès. Enfin, l'égocentrisme de cette femme, Alors, ça nous fait rire en tant que lecteur, mais elle est d'une méchanceté totale. Est-ce qu'elle est en colère? Je me suis dit ça.
Oui, alors elle est en colère puisque, en fait, le mensonge de la maladie, pour moi, c'était, surtout pour mon héros, c'était une façon de se réconcilier avec ses proches, notamment, surtout avec sa femme, puisqu'il réalise au début du roman qu'en fait, il ne se parle plus. Il n'avait même pas remarqué, il ne se parle plus. Et pour lui, ce mensonge, c'est une façon de renouer le dialogue, sauf que ça ne fonctionne évidemment pas du tout, qu'elle a finalement la réaction inverse, elle le fuit parce que son cancer, le cancer de son mari lui fait peur. Et cette femme, elle est en colère, je pense que, et on le comprend peut-être à la fin, c'est une femme qui souffre beaucoup et qui incarne un petit peu les effets pervers de ce qu'on appelle le développement personnel. Je pense que le développement personnel, ça a sans doute apporté beaucoup de choses positives à plein de gens. Mais pour moi, Betty, elle incarne vraiment, vous savez, cette amie qui a toujours des recettes toutes faites, des solutions toutes simples aux problèmes de la vie et qui a lu beaucoup trop de livres à la couverture colorée, plein de promesses.
Elle veut toujours respirer, faire son yoga, qu'on lui fiche la paix.
Oui, c'est même un running gag finalement entre Pierre-Antoine et sa femme. Et Pierre-Antoine, dès que la situation devient un peu bizarre ou l'ambiance un peu étrange, j'ai l'impression d'être tombé en pleine séance de méditation. Et pour lui, la pleine conscience s'apparente à peu près à un trou noir.
Mais il est mal entouré, hein, parce que sa femme n'est pas très sympa. Ses enfants non plus, ils disent « mais tu nous poses toujours les mêmes questions, tu ne comprends rien ». Sa mère est quand même effroyable.
Moi, je l'aime bien.
Oui, mais pas d'une sympathie à son égard totale.
Oui, c'est quelqu'un qui a une franchise un petit peu corrosive. Et moi, ce que j'aime bien dans le personnage de sa mère, ce que j'ai voulu en fait montrer, c'est finalement ces personnes qui, à un certain âge de la vie, ne s'embarrassent plus de filtres, disent les choses telles qu'elles les pensent et qui sont finalement assez déstabilisantes, mais peut-être aussi assez bénéfiques pour leur entourage. Et puis, oui, pour ce qui est des enfants de Pierre-Antoine, je pense qu'on peut aussi se poser la question de qui a été Pierre-Antoine pour ses enfants avant. Et peut-être que finalement...
Ils sont en manque d'amour. Exactement. Hein, ils sont en manque d'affection, ces enfants, entre leur mère qui ne fait que respirer et leur père qui est absent. Il faut avouer qu'ils n'ont pas une chance folle. Et ils sont plutôt, eux, sympathiques.
Oui. Et finalement, Pierre-Antoine l'avoue lui-même. Il a l'impression que leur enfance s'est déroulée dans la pièce d'à côté. Donc, il a vraiment été absent.
Et sur son enfance à lui, c'est très intéressant parce qu'il dit « Je ne jouais pas, je faisais semblant. » Comme si sa vie entière, il avait fait semblant d'exister plutôt que de vivre vraiment.
Oui, je pense que c'était un... Je le vois, moi, comme un petit garçon assez, assez mystique. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les jeunes enfants. Je l'observe moi-même chez les miens et je trouve ça totalement fascinant. Et finalement, je ne sais pas si tous les enfants sont comme ça, mais en tout cas, à un moment, ce rapport au monde si intense se dilue dans la vie, dans les préoccupations de la vie. Et je pense que Pierre-Antoine renoue avec ce petit garçon mystique qu'il a été.
On va écouter « Pêcheur de perles » de Georges Bizet, je crois entendre encore, interprété par Nicolas Guéda. Fin du sommeil aux éditions de l'Olivier, Paloma de Boismorel. Vous avez le goût des mots. Votre héros transforme la banalité du quotidien en fiction. J'imagine que c'est ce que vous faites aussi. Lorsque Betty dit, quand elle veut emmène son mari au restaurant, c'est une ancienne piscine reconvertie en restaurant marocain, tu verras, c'est très sympa. Et vous ajoutez, il ne fallait pas que j'oublie d'insérer sympa dans mes futurs dialogues. Cet adjectif tiédasse avait le mérite de s'insérer partout, sans rien révéler sur la situation ou sur les intentions des personnages, ce qui était parfait pour conserver le suspense. Et c'est extraordinairement amusant ce décalage que vous avez dans la tête de votre héros sur les intentions qu'il a et comment il vit sa vie.
Oui, je remarque, moi, quand on écrit, on fait évidemment très attention aux mots et surtout à toutes les, comment dire, les phrases toutes faites, les clichés, les mots bateaux qu'on a dans la tête. Et on se rend compte, finalement, qu'on est pollué par une sorte de langage standardisé. Et c'est à la fois amusant et effrayant de s'en rendre compte. Et pour moi, l'écriture, c'est une façon de faire un peu le jardinage et de me débarrasser de toutes ces couches de pré-pensées, de phrases pré-mâchées. Donc, j'ai voulu mettre ça un petit peu en scène avec mon personnage. Et puis voilà, l'écriture, c'est effectivement un goût des mots. Et Pierre-Antoine partage effectivement ce souci du mot juste. Moi, qu'on m'a enseigné aussi enfant, j'avais une mère qui ne nous passait aucune approximation.
Alors, vous expliquez, il y a une auteure dont l'écriture était alimentée autant par le dégoût que la passion de la vie, et je me suis dit que c'était votre cas.
Alors c'est juste peut-être une formulation un peu plus extrême que ce que je ressens, mais c'est vrai que j'écris avec la peur de me laisser engloutir par la vie matérielle, de me laisser dévorer par le quotidien. Et parfois, l'écriture est même une forme de revanche sur la vie. J'ai l'impression que quand on vit quelque chose d'un peu, une expérience un peu moche, un peu pénible, finalement, rien n'est jamais perdu tant qu'on peut la transformer, la raconter et si possible en rire un peu.
L'éditeur du livre suggère de publier des pages blanches sous prétexte que plus personne ne lit, et c'est ce que cherchent les médias. Vous qui êtes journaliste littéraire, vous en savez quelque chose. Comment est-ce que c'est de passer de l'autre côté ?
Alors c'est très grisant, et puis à la fois Ça fait longtemps que je me projette de l'autre côté, puisque ça fait longtemps que j'écris ce roman et que je sais que de toute façon, je veux écrire et si possible publier. Alors, ça fait longtemps que je regarde les auteurs comme des grands frères et des grandes sœurs. Et je les admire beaucoup. Et cette admiration, est pour moi, ne me paralyse pas, me donne plutôt l'élan pour m'y mettre.
Paloma de Boismorel, La fin du sommeil, premier roman d'une longue série.
Ben, j'espère. Je suis déjà en train d'écrire le suivant.
On a hâte de le lire. Est-ce que vous avez un mot de conclusion sur celui-ci ?
Eh bien, je dirais que La fin du sommeil a été pour moi une sorte de réveil aussi personnel, puisque j'ai l'impression d'avoir eu droit à une deuxième naissance avec mon personnage en l'écrivant.
Et l'édition de l'Olivier a changé beaucoup de choses ?
Alors non, ils m'ont suggéré quelques coupes que j'ai pour la plupart acceptées volontiers, puisque j'aime bien aussi l'idée que le texte soit épuré, j'aime bien l'ellipse. Et j'ai réécrit juste les dernières pages dont je n'étais moi-même pas tellement satisfaite. Voilà.
Merci beaucoup, Paloma de Boismorel.
Merci, Nathalie.
La fin du sommeil aux éditions de l'Olivier. Précipitez-vous.
Merci beaucoup.
Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.